Bienvenue chez CEO,
le podcast qui décrypte les codes du monde de l'entreprise
pour la jeunesse étudiante. Bonjour, je suis Pierre Damien Fougou de l'Institut Bordelais de Droit OADAM et de CEO Podcast. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir, le privilège d'être avec un professeur, Madame De Boissy, Madame Florence De Boissy, qui est professeur de droit à l'Université de Bordeaux, qui enseigne la fiscalité et le droit des affaires et qui est également responsable de formation de plusieurs masters, dont le master droit des affaires, le master 2, droit approfondi des affaires, le magister juriste d'affaires et fiscalité et bien d'autres. Alors aujourd'hui, nous avons le privilège donc de l'accueillir afin qu'elle puisse nous donner certaines indications au profit d'étudiants qui souhaitent postuler en master ou même plus. Donc bonjour Madame De Boissy.
Bonjour.
Alors Madame De Boissy, la première question que tout étudiant se pose généralement, c'est déjà comment choisir son master, parce que la plupart du temps, il y a des étudiants qui savent déjà quel master choisir, mais la plupart du temps, au regard de certaines difficultés, les étudiants sont confrontés à des choix stratégiques qu'ils doivent faire. Donc est-ce que vous avez déjà eu certains étudiants qui vous ont abordé avec ce genre de questions ?
Alors, sachant qu'à partir de cette année, les choses changent de façon assez radicale, puisque maintenant, la procédure de sélection se fait via une plateforme nationale, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Okay. Donc c'est la plateforme Trouver mon master. Et la différence pour les étudiants, c'est qu'ils pourront candidater dans beaucoup plus de parcours qu'avant. Okay. Puisque par exemple, avant, pour l'Université de Bordeaux, ils ne pouvaient demander que deux parcours à l'intérieur d'une mention. Alors que désormais, ils peuvent sur toute la France candidater sur un certain nombre de mentions. Et quand on candidate dans une mention, on peut candidater dans tous les parcours. Okay. Donc ça fait un élargissement assez spectaculaire du nombre de masters. Ce qui n'est pas forcément avantageux, parce que du coup, il y a le risque que tout le monde candidate un peu partout, oui. Par précaution, et nous, en tant que responsables de master, on ne sache pas du tout, finalement, si les gens sont réellement intéressés.
D'accord.
Donc c'est vrai que la difficulté, c'est qu'on est avec une nouvelle plateforme, qu'on ne connaît pas, qu'on découvre, et on espère que tout se passera au mieux. Alors, si on vient sur des choses plus simples, il faut candidater dans des masters dans lesquels on a envie d'aller. Des masters qui vous intéressent et puis aussi des masters pour lesquels les débouchés professionnels vous intéressent. Le premier critère, c'est vraiment ce qui vous intéresse, ce que vous voulez faire. Okay. Dans la mesure où le nombre de masters n'est plus limité, il y a beaucoup moins de questions stratégiques parce qu'avant, quand on n'avait que deux parcours à choisir, oui. Il ne fallait pas prendre des parcours trop sélectifs si bien on sûr. Considérait qu'on avait un dossier moyen. Mmh. Alors que là, désormais, cet écueil n'existe plus puisque le choix de parcours est extrêmement ouvert. Je ne sais pas si je suis très claire.
Ah, bien sûr.
Donc voilà, il n'y a plus au moins cette dimension stratégique. Donc il faut vraiment aller vers les masters qui vous intéressent. Et pour ça, vous avez sur le site de la faculté de droit y a les fiches pour chacun des masters, oui. Chacun des parcours. Vous avez des réunions de présentation qui ont été faites sur Internet, qui ont été enregistrées. Donc la première chose à faire, c'est d'écouter ces réunions de présentation. Okay. Voir si le master vous intéresse, si vous vous sentez en accord aussi avec les responsables du master, parce que chaque responsable a ses particularités, ses façons d'enseigner. Oui. Et ça, c'est un élément d'information très important. Après, il y a toujours la possibilité de poser des questions particulières via les messageries aux enseignants. Il ne faut pas en abuser, parce qu'il y a déjà beaucoup d'informations qui sont disponibles sur les sites institutionnels.
Bien sûr. Ok, merci beaucoup. Alors, après, les étudiants se posent généralement la question sur la sélection. Généralement, c'est vrai que c'est dit que la sélection se fait d'abord sur la base des notes. Alors, est-ce que c'est toujours ce que vous appliquez, par exemple, est-ce qui se fait de manière générale ?
Oui, alors le premier critère, c'est évidemment le parcours académique. Oui. Donc, je ne parle que pour moi, mais à titre personnel, pour le recrutement dans les masters dont je m'occupe, on accorde une première attention déjà aux notes, aux mentions, mais indépendamment des mentions, on accorde beaucoup d'importance aux notes obtenues en travaux dirigés, et puis aux notes obtenues en TD, et de façon beaucoup plus marginale aux petites matières, enfin aux oraux, parce que parfois ça peut être des QCM, toute la promotion à 19, donc c'est pas très révélateur, ou un enseignant qui note très sévèrement et toute la promotion à moins de 8. Donc on essaie un petit peu de regarder la moyenne générale, les notes en TD à l'écrit et les notes obtenues lors des séances de TD. D'accord. Donc ça, c'est le premier élément, mais il n'y a pas que les notes, il y a aussi le parcours, les expériences professionnelles, les stages. Sachant que comme on recrute des gens qui ne sont que en L3, donc qui ne sont pas très avancés, il n'est pas nécessaire d'avoir fait beaucoup de stages, parce que les stages qu'on peut faire jusqu'à la L3 sont quand même souvent des stages d'observation de découverte. Si on en a fait, c'est très bien, mais ce n'est pas du tout une condition indispensable. Et il faut absolument valoriser dans vos CV toutes les expériences professionnelles, les jobs d'été, quand on a dû travailler pour financer ses études. Parce qu'on a beaucoup de recruteurs qui nous disent que finalement, eux, ils regardent plus les expériences professionnelles que les stages. En se disant que les stages peuvent être, on n'a pas forcément fait des choses très intéressantes, on peut avoir obtenu des stages par des réseaux, ou sans, alors que quelqu'un qui a travaillé tous les ans, qui a financé ses études, qui a travaillé tous les étés, bah, ça montre qu'il est capable de s'intégrer dans le monde du travail, de s'adapter, qu'il a le sens de l'effort, qu'il sait travailler en équipe, qu'il a déjà une connaissance de l'environnement professionnel. Donc il faut à tout prix valoriser tout ce qui est donc stage et expérience professionnelle, et ne jamais avoir honte, hein, même si c'était quelque chose de manuel, ou hôtesse de caisse, ou que sais-je, c'est une expérience professionnelle. Il ne faut surtout pas se dire « ça fait pas chic, je le mets pas », ce serait un véritable contresens, et ça, on le tient vraiment de cabinet d'avocat, d'employeur, hein, c'est pas juste un ressenti personnel. Et puis il faut évidemment valoriser dans vos CV tout ce qui vous définit en tant que personne et montre de votre part un vrai investissement qui peut être sportif, artistique, associatif. Voilà, donc ça c'est extrêmement important, mais il faut vraiment mettre dans votre CV ce qui vous définit, ce qui vous distingue, ce qui vous singularise. Voilà, si c'est j'ai fait de la danse classique pendant un an quand j'étais au CP, on s'en moque un peu. Par contre, j'ai fait 8 ans de danse classique, je suis galopette en équitation, le rugby, donc ça c'est très important. Tout ce qui est associatif, évidemment, c'est important. Et puis mettez en avance vos compétences en matière de langue et en matière d'informatique, c'est très utile. Et en matière de langue, c'est langue. Mais c'est toutes les autres langues, et pour tous les étudiants qui ont la chance d'avoir une double culture ou qui viennent d'autres pays et qui parlent une autre langue, eh bien, c'est extrêmement important, parce que les cabinets d'avocats, les entreprises investissent à l'étranger, donc elles ont besoin de gens qui ont la double culture et qui parlent les deux langues, donc que ce soit des langues d'Afrique, du Maghreb, d'Amérique du Sud ou des pays de l'Est ou que sais-je, ce sont évidemment des choses aussi à valoriser dans vos CV.
D'accord. Ok, merci. Vous avez anticipé d'ailleurs la question que je voulais vous poser, donc on va plus revenir sur le fait de valoriser les expériences extra-académiques. Alors, c'est vrai également qu'il y a certains étudiants qui malheureusement n'ont pas de bon dossier, on va dire. Alors, et ces étudiants se disent généralement que c'est rédhibitoire et hésitent à postuler. Alors, bien évidemment, c'est qu'il y a un filtre de départ, mais quel conseil pourriez-vous donner à ces étudiants-là qui malheureusement n'ont pas réussi à avoir de bon dossier, ou même n'ont pas réussi à avoir des activités extra-académiques qui leur permettent de se distinguer?
Alors, bah, il faut tenter sa chance, hein, sachant qu'il y a des parcours plus sélectifs que d'autres. Et c'est vrai qu'il faut aussi regarder en fonction de... Bon, si vous avez un dossier très moyen, il y a des parcours, c'est sûr que vous ne serez pas pris. Alors, vous pouvez candidater, mais au final... Après, il faut aussi aller voir... c'est pas du tout péjoratif, ce que je dis. Hein, des parcours pour lesquels le niveau de sélection est moins élevé, mais qui restent pour autant d'excellents parcours. Et puis, il faut aussi accepter une certaine, peut-être, mobilité géographique. Moi, je connais beaucoup d'étudiants, un certain nombre, qui n'ont pas été pris à Bordeaux parce que leur résultat était trop moyen. Ils sont partis dans une autre université et puis ils ont fait des carrières extraordinaires. Hein, donc, on peut partir dans des universités plus petites, différentes. Le tout, c'est avant tout de trouver un master dans une matière qui vous intéresse. Je crois que c'est vraiment le plus important. Après, il y a des recours via le rectorat. L'expérience montre que pour les étudiants qui ont candidaté de façon suffisamment large et qui sont très motivés, ben, ils arrivent à trouver un master.
D'accord. Est-ce que la lettre de motivation, à votre avis, est-ce que c'est quelque chose qui compte beaucoup? Parce qu'il y a certains recruteurs qui disent ne même pas lire la lettre de motivation. Donc, est-ce que vous pensez qu'il faut s'attarder là-dessus? Parce que certes, les étudiants s'attardent là-dessus, mais est-ce que c'est quelque chose qui entre véritablement en jeu, en ligne de compte?
Absolument. Alors, je parle pour moi. Moi, j'attache, comme beaucoup de collègues, une grande importance à la lettre de motivation. Parce que ça permet déjà de voir si la personne sait écrire, si la personne est synthétique, si elle fait des fautes d'orthographe, si c'est bien présenté, si c'est clair. Donc c'est un travail écrit, hein, et on aime bien quand même recruter des étudiants qui savent écrire, donc ça, rien que pour ça, il faut la soigner. Sur le fond, ça peut être intéressant, parce qu'il y a vraiment des lettres de motivation. Là aussi, il ne faut pas que ce soit la lettre de motivation stéréotypée. Il faut vraiment montrer pourquoi ce parcours vous intéresse, pourquoi vous voulez vraiment y rentrer. Il faut vraiment faire état de votre motivation. Alors au pire, ça ne servira à rien, mais en tout cas, ça peut être un élément important. Donc, il faut mettre toutes les chances de votre côté et évidemment soigner la lettre de motivation.
D'accord. Je pense que vous avez répondu à énormément de questions déjà. Alors vous, personnellement, est-ce que de par votre parcours, qu'est-ce qui vous a le plus, je vais parler un peu de votre parcours professionnel, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans le parcours juridique? Parce que en droit, la particularité, c'est que certains étudiants pensent que c'est beaucoup de réseaux qui comptent pour pouvoir gravir les échelons ou pour pouvoir accéder à des postes qu'on aime bien. Donc est-ce que vous pensez que c'est véritablement cette donne-là qu'il faut prendre en considération ou on peut se démarquer d'une autre manière également?
Alors, le réseau peut être utile. Il peut être utile pour vous ouvrir des portes. Mais ouais. Si après vous n'êtes pas bon, vous ne resterez pas. Hein. Ouais. Donc, c'est sûr qu'avoir un réseau personnel permet évidemment d'ouvrir des portes. Moi, la grande leçon que je fais sur quand même des décennies d'enseignement, c'est que les bons étudiants motivés trouvent leur place. Okay. Quel que soit le milieu social dont ils viennent, quelle que soit leur culture ou pays d'origine, quels que soient les handicaps sociaux qu'ils pouvaient avoir, on a quand même la chance à la faculté de droit de pouvoir faire des études gratuites. Ouais. Après avoir des débouchés, les masters professionnels qui ouvrent quand même des débouchés tout à fait considérables et importants. Et moi, je vous assure, je prends par exemple le DGCE de Bordeaux. La plupart des étudiants n'ont aucun réseau quand ils arrivent dans le DGCE de Bordeaux. Tout à fait. Mais nous, on met à disposition notre réseau personnel. Et puis ensuite, eh bien, alors après, vous allez me dire, il y a le réseau des anciens hein, qui peut jouer. Mais ça joue pour tous les diplômes. Mais cette idée sur laquelle on ne pourrait réussir que quand on a des contacts ou qu'on vient d'un certain milieu professionnel ou social, mais c'est totalement faux. Et ça, l'expérience le montre. Okay. En revanche, il faut avoir confiance en soi. Voilà, donc il ne faut pas se mettre de limites, il faut être ambitieux, il faut avoir confiance en soi, puis surtout, il faut savoir écouter et apprendre. Okay. Il y a des étudiants qui n'ont pas la bonne tenue vestimentaire, qui n'ont pas les codes, qui n'ont pas le bon comportement. Ben, les étudiants intelligents, ils apprennent parce qu'on leur explique, on leur dit, puis ils regardent, ils observent, et puis du coup, ils arrivent à intégrer ces codes. D'accord. Alors, ça leur demandera plus de travail qu'un fils d'avocat qui a déjà tous les codes parce qu'il est né dedans et pour lui, c'est facile. D'accord. Mais il n'y a absolument rien de rédhibitoire. Et on peut y arriver absolument sans réseau. Ça, c'est vraiment, je crois, un des titres de gloire des facultés. Faculté de droit, hein, c'est de pouvoir offrir des perspectives à des étudiants, quel que soit leur milieu social d'origine ou leur réseau.
D'accord. Merci beaucoup. C'est intéressant que vous parliez de code parce que déjà avec le podcast CO, on parle généralement de code. On essaie de décrypter les codes au profit des étudiants. Et donc, vous montrez encore une fois qu'il y a certains éléments à prendre en considération au-delà de la moyenne, au-delà des expériences, mais vraiment pour pouvoir s'intégrer dans l'environnement dans lequel on veut grandir professionnellement. Donc, à travers ces codes-là, il faut donc essayer d'aller au regard d'aller les chercher et surtout de les appréhender.
Absolument. Et puis les codes, ça commence... Ben nous, on le voit très bien quand on fait des entretiens. Hein, oui. Si la personne n'est pas polie, si la personne s'exprime mal, si la personne a l'air de mauvaise humeur, bon, on se dit, est-ce qu'on a envie de passer 2 ans avec elle? Mais mettez-nous à notre place. Hein, ouais, donc c'est vrai qu'il faut aussi faire l'effort de bien se présenter, de bien s'habiller, d'essayer de comprendre que même ces auditions, c'est pré-professionnel. Hein, donc totalement, il ne faut pas y arriver jean, basket, capuche, non. Parce que il y a plusieurs niveaux de langage selon le public auquel on s'adresse. Et ben, il y a plusieurs façons de s'habiller selon les activités. Et quand on se présente à ce genre d'entretien, mais comme à un oral à la fac, eh bien, il y a un effort vestimentaire, un effort de tenue, qui absolument, on peut avoir des bons dossiers qu'on ne prendra pas parce qu'on se dit, en termes de comportement, on n'a pas du tout envie de passer 2 ans avec cette personne dont on voit qu'elle ne fait aucun effort pour comprendre ce qu'on attend d'elle. D'accord. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'il faut, ça demande aussi de la réflexion et du travail personnel. Hein. C'est-à-dire que chacun doit essayer de comprendre ce qu'on attend de lui.
Bien sûr. Et il faut que l'étudiant puisse montrer qu'il a envie d'être dans l'endroit pour lequel il postule.
Absolument. La motivation est déterminante. Nous arriver à profil égal. Alors, à dossier égal, on prendra toujours celui qui est le plus motivé. Okay. Et il a même pu nous arriver de privilégier des étudiants dont le dossier était moins bon, mais dont la motivation, l'état d'esprit nous ont fait dire lui ou elle, il faut le prendre, on ne va pas le regretter. Et à chaque fois qu'on a fait ça, après c'est un peu un contrat avec l'étudiant, bon, on vous a pris, mais à vous de faire vos preuves. Les étudiants ont 2 ans pour faire leurs preuves et on n'a jamais été déçus et ça a souvent été des réussites assez spectaculaires. Okay. Donc il n'y a pas que le dossier qui compte, mais évidemment, s'il y a un certain niveau de sélection, il faut quand même que les notes entrent un petit peu dans la fourchette qui correspond à celle du diplôme, quoi, évidemment.
Parfait. Alors, la dernière question, pour un étudiant qui ne sait pas forcément où aller, c'est-à-dire qui a, on va dire, des notes moyennes et qui postule à une formation et qui montre clairement qu'il ne sait pas forcément où aller, est-ce que cet étudiant, vu qu'il n'a pas de projet professionnel précis, quel conseil vous pourriez lui donner ou comment est-ce que sa candidature est vue?
Alors, là aussi, je vais parler pour moi. Je ne sais pas si c'est révélateur. Mais pour ce qui me concerne et tous mes collègues qui font les sélections avec moi, ça nous est complètement égal qu'à la fin de la L3, l'étudiant n'ait pas de projet professionnel. Okay. Parce qu'il a 15 fois le temps de changer d'avis et on lui souhaite de changer d'avis.
D'accord.
Moi, à la fin de ma L3, si on m'avait dit que je ferais une thèse en droit fiscal, je serais tombée des nues. Hein. Donc évidemment, alors si on sait déjà ce qu'on veut faire, c'est très bien, mais c'est absolument pas une condition. Et je trouve qu'on a beaucoup trop farci la tête des lycéens et étudiants du projet professionnel.
Oui.
Ça, ça se construit dans le temps. Et en général, la profession, bon, on commence à y réfléchir en master. Puis il y a tellement de gens après qui ont changé, qui sont partis du droit ou ont resté dans le droit, mais ont changé de spécialité. Où ils voulaient être avocats, puis finalement ils sont notaires. Ils voulaient être magistrats, puis finalement ils sont huissiers ou que sais-je.
Oui.
Donc pour moi, c'est absolument pas un facteur rédhibitoire, pas du tout.
D'accord. Merci beaucoup. Donc, en gros, aux étudiants, il faut juste dire qu'il faut saisir sa chance, ne surtout pas hésiter. On retient également de ce que vous dites qu'il faut faire preuve d'audace, de confiance en soi, aller voir, aller se renseigner, poser des questions. Et avec tous ces éléments, on pourrait avoir les clés d'une bonne candidature, d'une candidature optimisée pour avoir, on va dire, la formation de ses rêves.
Absolument.
Merci beaucoup, Madame de Boissy, pour cet entretien.
Merci,
et les étudiants
Foubault.
Vous remercient.
Au revoir.
Au revoir.